l'invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Olivier Kaufmann, grand rabbin de la synagogue de la Place des Vosges depuis 2002, directeur du séminaire israélite de France, à Strasbourg pour animer une conférence dans les locaux du FSJU intitulée « L'expérience esthétique de la liberté ». C'était hier soir, malheureusement c'est passé, et intervenant dans le cadre des rencontres « Foi et déportation » organisées par le Centre européen du résistant déporté sur le thème « L'existence du mal, quelle spiritualité ?» après les camps. Monsieur le grand rabbin Olivier Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir à Strasbourg. Vous étiez déjà venu ?
Alors, j'étais déjà venu lors du dernier congrès rabbinique il y a quelques années. J'ai une très mauvaise mémoire des années, donc je ne vous dirai pas quand. Mais en tout cas, le congrès rabbinique qui avait été organisé par le grand rabbin de France à Strasbourg. Et puis, j'ai souvenir d'être entré dans ce studio, mais alors il y a très longtemps, en 2014, lors de la campagne organisée pour les élections du grand rabbin de France. Et j'avais été interviewé ici, puisque j'étais l'un des 10 candidats pour cette haute fonction. Donc, et puis pour des raisons familiales aussi et privées, je me suis déjà rendu à Strasbourg et j'aime la douceur de vivre de la communauté et de la ville de Strasbourg.
Alors, vous êtes venu à l'initiative aujourd'hui du grand rabbin Harold Avraham Weil pour échanger, pour rencontrer le public lors de ce colloque Foi et déportation. Pour vous, c'est nourrissant ça de rencontrer le public, de rencontrer des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir échanger. Là, c'est un thème très lourd, très difficile. Mais pour vous, c'est toujours inspirant ce genre de rencontre.
Oui, c'est inspirant à plus d'un titre. D'abord parce que je suis rabbin d'une synagogue fondée par des déportés. Mon prédécesseur était lui-même rescapé d'Auschwitz, le rabbin d'Ishé, paix à son âme. Et j'ai le privilège, et je le mesure peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, d'avoir été entouré par ce que j'appelle des héros et héroïnes du peuple d'Israël, et pour l'humanité tout entière du reste. Des hommes et des femmes qui ont construit cette petite synagogue, alors qu'ils étaient pour la plupart d'entre eux fâchés avec le Créateur, et qui se sont dit qu'il fallait absolument, avant que le mur des noms existe au mémorial de la Shoah, qu'il y ait un endroit dans lequel des générations entières puissent se recueillir. Alors c'est vrai que la synagogue de la Place des Vosges, elle est singulière parce qu'il y a énormément de noms inscrits sur les murs. Alors ça peut paraître parfois effrayant pour des jeunes qui rentrent dans cette synagogue, mais à travers cette lumière qui traverse les vitraux de la Place des Vosges, et surtout de se dire que nous nous trouvons devant un parc qui, à l'époque de la guerre, était interdit aux chiens et aux juifs, de se retrouver ici, dans ce vieux quartier juif, même si l'âme de ce quartier est quelque peu altérée pour plein de raisons contemporaines, on va dire. Mais c'est pour cela aussi que je suis aussi et que j'ai tout de suite répondu à l'invitation du colloque et à l'invitation de mon ami le grand rabbin Weil, parce que je me dois constamment de réfléchir sur cette question qui hante nos esprits et qui continuera de la hanter, c'est-à-dire pourquoi, comment, j'ai pas la prétention de réconcilier cette génération, pour la plupart d'entre eux fâchés avec le bon Dieu, mais j'ai la prétention de réconcilier une communauté avec un destin en mouvement. Parce que le peuple juif n'a jamais cessé de chanter, n'a jamais cessé d'espérer, il est debout, il est vaillant. Et c'est pour cela aussi que nous nous retrouvons dans cette synagogue qui n'entretient pas juste une mémoire mortifère, mais qui est faite de chair et de sang, parce que, en fin de compte, nous sommes là pour célébrer la vie. Et je dis toujours aux élus qu'il est certes très important d'inaugurer des plaques, mais nous sommes là aussi pour célébrer les vivants. Et demain, aujourd'hui plutôt, j'étais là pour aussi honorer et à la fois les disparus, mais les vivants. Et la question de la foi et de la déportation, elle n'est pas une question d'hier, elle est une question d'aujourd'hui et de demain. Pas juste pour les générations qui ont souffert de la déportation, mais pour chacun d'entre nous. C'est l'humanité tout entière qui doit s'interroger. Alors pour les croyants, sur la foi et la déportation, et la mémoire, mais aussi lorsque nous sommes confrontés à tant d'épreuves, la guerre qui est à nos portes en Ukraine, la souffrance, les injustices qui ne cessent de se révéler au grand jour, ce sont toutes ces énigmes de la vie auxquelles nous n'avons pas de solution, et je ne prétends pas qu'un rabbin puisse être détenteur de la vérité ou de la solution ou l'interprétation, mais d'être invité à réfléchir, à penser, d'abord en être humain avant d'être rabbin. Et c'est pour toutes ces raisons que toutes ces occasions d'être interpellé, d'être malmené aussi dans sa foi, toujours dans le respect des uns et des autres et du débat contradictoire, ce sont autant d'occasions qui nourrissent ma réflexion, ma méditation. Et on ne sort jamais intact, certes, de ce genre d'expérience, mais ce sont des expériences auxquelles nous devons répondre. Et c'est pour cela que j'ai répondu tout de suite à cette sollicitation.
En tant qu'homme de foi, en tant que directeur du séminaire israélite de France, vous êtes, vous encore, nourri de ces échanges et donc à la recherche de réponses. En fait, c'est une quête sans fin pour vous, homme de foi.
Vous avez dit le mot-clé, une quête. Manitou disait, à travers cette querelle entre Joseph et ses frères, que c'était la résonance aussi de ce qui s'était passé entre Caïn et Abel. Et il parlait de quête perpétuelle de fraternité. Nous sommes en quête perpétuelle de fraternité et nous sommes en quête perpétuelle de sens. Et ne pas le dire aujourd'hui, hier et demain, ça serait passer à côté de notre vocation de peuple phare pour l'humanité tout entière. C'est inviter au questionnement. Alors oui, c'est vrai, en tant que directeur de l'école rabbinique, j'ai institué une journée entière, le jour de Yom HaShoah, avec les élèves rabbins, pour participer d'abord à la lecture publique des noms, pour aussi que les élèves rabbins soient encadrant d'un office dans la crypte du mémorial et puis qu'ils puissent aussi bénéficier du savoir-faire de l'équipe pédagogique du mémorial qui est extraordinaire. Je voudrais saluer toute l'équipe et son directeur, Jacques Frege. Donc, ils vont avoir une visite privée d'une exposition temporaire et surtout, on y tient un échange avec un témoin vivant. Et ce sont là encore ces échanges qui peuvent nous remettre en question parfois dans nos certitudes. Je dis toujours aux élèves rabbins, il ne faut pas avoir peur de la différence, il ne faut pas avoir peur aussi de l'insécurité face au texte ou face au questionnement de gens qui sont parfois révoltés. Nous sommes là, pas nécessairement pour parler et répondre, mais parfois il faut savoir faire silence et juste écouter.
C'est une belle réponse de rabbin, effectivement, de savoir écouter et de donner toute la place au silence de l'autre également. On va revenir, monsieur le grand rabbin Olivier Kaufmann, sur votre parcours. Alors, vous êtes petit-fils du grand rabbin Henri Chili, qui a aussi été directeur du séminaire israélite de France. C'était de 1951 à 1977. Un modèle pour vous, il y a une forme de transmission de vocation.
Je ne cesse de penser à lui, mais j'ai, comme j'ai toujours l'habitude de dire, j'ai vécu sa mémoire à travers les récits continus prononcés par ma grand-mère, paix à son âme, Simone Chili, parce que, en fait, le grand rabbin Chili, et on peut le voir encore mieux à travers le livre qui a été rédigé par Daniel Haïk sur son parcours, le grand rabbin Chili. C'est un enfant orphelin. C'est le modèle d'un homme qui s'est construit par lui-même et qui a toujours été à l'écoute de l'autre. Son totem en dit long sur ce qu'il incarnait aux yeux des autres, puisqu'il a été scout, jeune scout. Je rappelle quand même qu'en 1942, chose incroyable, il a organisé un camp d'été dans la région de Montpellier. On a inauguré une place, Henri Chili, à Montpellier. Et son totem, c'était Tison Ardent. Et c'était une lumière. Et je pense toujours à cette expression biblique du livre de l'Exode, lorsque Moïse va au fond du désert. C'est-à-dire que cette quête initiatique pour aller chercher au plus loin les âmes esselées. Mon grand-père a été un modèle de courage. Il a succédé à feu le grand rabbin Hirschler, qui a été arrêté et déporté alors qu'il exerçait sa fonction d'aumônier général des camps d'internement. Et mon grand-père, sans se poser de questions, a tout de suite succédé au grand rabbin Hirschler. Il n'a jamais cessé d'exercer ses fonctions rabbiniques tout en protégeant sa famille, puisque ma mère et ses frères et sœurs ont été cachés près d'Annecy. Mais c'est aussi cette terre d'Alsace, puisqu'il est enterré à Aubernais avec ma grand-mère. Et donc ce sont toutes ces valeurs-là de fidélité, de constance, d'humilité, de rayonnement. Et Il est vrai que aujourd'hui, son image m'accompagne. Alors même si j'étais très jeune quand il est décédé, encore une fois, ce sont donc les souvenirs qui m'ont été transmis, entre autres par ma grand-mère, qui parlait de lui au présent. Qui disait Monsieur Chili, et c'est vrai que pour avoir aussi croisé des anciens élèves à lui, des rabbins aujourd'hui à la retraite pour la plupart d'entre eux, voilà, on l'appelait Rabbi. Donc c'est un berger, c'est un homme qui était capable, parce que je reçois à chaque fois des témoignages, qui était capable de recevoir une jeune adolescente en quête de sens et en quête de repères dans son bureau de directeur d'école rabbinique, puisqu'il était aussi rabbin de la communauté de Vauclin qui se trouve aussi au cœur du bâtiment de l'école. Donc ce sont toutes ces images-là, pêle-mêle, qui à chaque fois m'accompagnent. Et Je garde à l'esprit quelque chose que j'entendais souvent dans la bouche de certains de ses élèves aussi, qui ont été des grands officiants, des grands chazanim. Je pense à René Jasner et à son âme, et je pense aussi à Adolf Atia, qui maintenant habite en Israël et qui a été mon maître pour préparer ma bar mitzvah. Je repense à ce que me disait Adolf Atia. Il me disait, ton grand-père, il avait ceci de particulier, c'est qu'il n'avait il avait aucun jugement sur les gens. Moi, j'aurais pu très mal tourner. Et il m'a sorti de la médiocrité pour être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ça, c'est être facilitateur, découvreur de talent, d'énergie, ne jamais désespérer de l'humain.
Amen, comme on dit.
Exactement.
Amen. Alors, vous avez fait des études de droit classique. Ça, vous l'avez fait avant votre école rabbinique. Ouais, parce que vous aviez à un moment envie d'avoir des armes pour une vie dite classique.
Je pense que vous touchez du doigt quelque chose d'assez sensible. J'ai fait toute ma scolarité en école juive. Lucien Duhirsch, il est venu à Paris. Et c'est vrai que je ressentais le besoin de découvrir un autre monde. Et j'avoue que ces années passées à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, avec des professeurs comme Robert Banater, ou Jean-Denis Bredin, ou le professeur Shremkevich, ce sont des moments de grande délice, sur le plan intellectuel, mais également sur le plan de la rigueur, la méthodologie de travail. Et le bagage universitaire m'a permis à la fois de ne plus avoir peur des autres, dans le sens altérité, et puis surtout aussi de pouvoir m'affirmer en tant que juif sans aucune difficulté. Je portais la kippa, j'avais aucune difficulté. Alors, c'était à l'époque où on n'avait pas encore la question des signes ostentatoires, mais ce n'était pas pour montrer que je l'étais, mais c'était aussi pour pouvoir me mesurer à l'autre tout en restant moi-même, vous voyez. C'était ça le défi que je voulais me lancer. Et j'avoue que ça a été une expérience incroyable qui m'a permis aussi de me faire des amis dans d'autres strates de la société, des amis que je garde encore aujourd'hui. Je n'ai pas que des amis rabbins. Et ça me permet aussi de continuer aussi à avoir parfois des éléments de langage qui me permettent aussi de mieux comprendre la vie réelle d'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que le Talmud ou la Bible ne nous donnent pas les règles ou les éléments pour décrypter les choses de la vie. Mais vous savez, le rabbin Samson Raphaël Hirsch, auquel je suis très attaché et que j'enseigne auprès des élèves rabbins, avait toujours compris que pour à la fois être dans la cité sans transiger avec ses valeurs, il fallait, selon ce précepte, Torah im derech eretz, pouvoir concilier étude de la Torah avec savoir universitaire, l'un n'empêchant pas l'autre.
Alors moi, il y a une question que je me pose également dans l'enseignement. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'enseignement religieux, hein, évidemment, en direction de vos rabbins. Moi, j'aimerais bien, mais là, c'est moi qui manque un peu de bagage. Je vais être honnête. En revanche, qu'est-ce qui est important pour vous de transmettre à un futur rabbin? Alors, vous parliez d'humanisme en parlant de votre grand-père, d'avoir une vision des choses, d'avoir une proximité de l'autre, d'écoute, peut-être de compréhension ou d'attente. Qu'est-ce qui est important pour vous, pour un futur rabbin, quand il sort du séminaire?
Alors, ça peut-être vous étonner, mais déjà, travailler l'empathie. Et c'est pour cela que j'ai institué un module d'enseignement de psychologie avec un homme que j'aime beaucoup, le docteur Bantman, qui est psychiatre. Et l'une des thématiques que nous avons travaillé avec les élèves rabbins, c'est l'empathie. Parce qu'on peut être le plus grand des érudits, mais si on n'a pas d'empathie, si on n'a pas de l'amour de l'autre, comment voulez-vous qu'on transmette ? Vous savez, la transmission, ce n'est pas juste une question d'érudition, c'est une question aussi de choisir les conditions idéales pour transmettre. Le lieu est important, vous voyez. On aurait pu choisir l'Everest ou je ne sais quelle montagne. On a choisi la montagne la plus anonyme, la montagne du Sinaï. Je vous ferai remarquer en aparté qu'on ne vient pas pèleriner dans le Sinaï. Et l'État d'Israël l'a même rendu, le Sinaï. Ça veut dire que nous ne sommes pas attachés au lieu. Mais par contre, le moment de la transmission a été désigné par le Créateur selon la tradition biblique et par Moïse. C'était de trouver le lieu dans lequel on puisse non pas s'approprier la Torah, mais la partager. Ne pas se sentir détenteur exclusif. C'est un trésor qui appartient à chacun d'entre nous. Et pour répondre à votre question, au-delà de l'empathie, c'est aussi être polyvalent. Alors c'est compliqué parce qu'on attend tout d'un rabbin. Être l'assistante sociale, le psychologue, celui qui est capable d'écouter tout sans avoir de jugement, de ne pas être effrayé par la différence, d'avoir à la fois la connaissance livresque, mais aussi la connaissance de terrain et surtout d'être un enseignant. Vous voyez, j'ai rencontré le directeur de l'école Akiba, M. Usan, et j'avoue que ça a été un délice pour moi. Parce que voilà ce qu'on rêverait pour, je dirais, pas juste pour les directions d'école, mais pour tous les enseignants. Alors, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais c'est-à-dire une énergie à revendre et surtout l'amour de la transmission. Là, je voyais ces pièces de théâtre, un directeur qui n'a pas peur de se grimer pour pouvoir participer lui-même en personne au spectacle. Mais voilà, un rabbin qui soit aussi capable, mais on m'a dit que le grand Bavel avait ce talent aussi, d'être un animateur hors pair. On a tout le potentiel vocal, le potentiel intellectuel pour non pas juste être une mémoire figée ou donner un cours magistral, on est là pour faire vivre. Et c'est pour cela que le rabbin doit être un enseignant et doit être capable d'enseigner tant aux petits de 5 ans qu'aux plus âgés. Il doit être capable d'avoir une parole audible et qui soit reçue par toutes les couches de la société, quel que soit le degré de croyance, de proximité avec l'observance, et surtout aussi quel que soit l'âge.
Vous êtes également, alors ça va être peut-être plus surprendre, mais en même temps, vous nous parliez de l'envie de transmettre et de cette passion, et évidemment de transmettre aux plus jeunes. Vous êtes chroniqueur radio chez nos confrères d'RCJ à Paris. Et comment ça vous est tombé dessus, ça ?
Alors c'est un bonheur, c'était en plus mon rêve. Bon, alors moi, je vais être peut-être vous étonner, c'est peut-être vieux, je suis peut-être plus âgé. En fait, je me souvenais, quand j'étais étudiant, j'écoutais France Inter, la voix de Macha Béranger. Je ne sais pas si vous rappelez.
Oui.
Donc voilà, il y avait tout un univers feutré, il y avait une voix, il y avait tout. Bon, et j'ai je suis très sensible à la voix. D'abord parce que j'aime chanter. J'ai appris la chazanout avec un cantor, parce que je parlais d'Adolf Atia, mais j'ai aussi été officiant à la Grande Synagogue de Nazareth. Donc avec M. Danoff, Yoshua Danoff, j'ai appris aussi à travailler la voix et puis à être sensible à la voix. Donc c'est vrai que pour moi, c'était un rêve. Et c'est vraiment un pur hasard, c'est-à-dire au détour d'une conversation impromptue avec Paul-Henriette Lévy, qui à l'époque dirigeait la radio, et qui m'a croisé. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait à l'époque, une radio, alors je ne sais pas si on dit radio concurrente, Radio Shalom était abritée aussi dans les locaux du...
Ils partageaient l'antenne, effectivement.
Voilà, et les lieux. Donc je venais d'une émission de mémoire, parce que j'étais régulièrement invité par Claude Boschurberg. Entre parenthèses, je vous invite à écouter sur France Culture, il est passé dans Tel Musique dimanche matin. C'est un homme extraordinaire pour qui j'ai une admiration sans borne, qui est de la bande de Serge Abiat Clarcette, qui m'a tout appris sur la mémoire. Mais quand je dis tout appris, c'est-à-dire sur tous les parcours les plus anonymes et les cheminements respectifs. Et donc, je sortais de l'émission Mémoire et Vigilance de Claude Boschurberg, et elle me dit, qu'est-ce que tu fais là ? Je lui dis, alors, avec peut-être un peu de toupet, je lui dis, il y en a qui m'invitent. Elle me dit, alors banco, vas-y, je te donne l'émission. Bon, alors j'avais un concept, je ne voulais pas faire l'émission tout seul, donc je l'avais faite avec un ami rabbin, le rabbin Journeau, et c'était, l'idée, c'était le chavuta, c'est-à-dire qu'on étudiait, mais on se disputait autour du texte. Bon. Après, chemin faisant, il se trouve que l'émission a changé de format. Et puis, Sandrine Seban, avec Richard Rodier, m'ont proposé donc d'avoir, non pas une chronique, mais vraiment une émission alors pendant 25 minutes, 30 minutes. Alors, c'est pas facile de parler tout seul. Et avant, je les ai enregistrées, les émissions. Alors, je me dis, allez, je me jette à l'eau, je vais faire du direct. Et puis, je vais me lancer dans les plaisirs de l'animation, à tel point que parfois même, je reste dans l'émission suivante, qui est une émission de cuisine, alors moi qui n'ai rien dans la cuisine. Et je me suis fait une nouvelle amie, Annabelle Chakmes, qui anime. J'adore rencontrer des mondes différents, parce que c'est au contact de la différence qu'on s'enrichit, et puis qu'il faut éternellement découvrir les autres et leur monde, même si on ne les partage pas totalement. Je connais rien à la cuisine, et je ne suis pas un amoureux de la cuisine, mais j'aime les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font.
Et qui en parlent derrière un micro, et oui. Donc bon, c'est des émissions qu'on écoute et qu'on capte aussi ici à Radio Judaïque à Strasbourg. Alors notre temps imparti est presque terminé. Moi j'aimerais juste connaître votre vision des choses sur les femmes rabbins par exemple. C'est forcément, on est encore en mars, la journée des droits des femmes vient juste de passer. Quel est votre regard, vous en tant que rabbin, de grand rabbin, sur l'ordination des femmes. On en a une à Strasbourg, chez les libéraux, Iris Ferreira, la première femme qui a été ordonnée en France.
Ah, ordonnée, d'accord. Non, parce qu'il y a eu d'autres femmes.
Il y en a eu d'autres, mais d'accord, nous, je comprends. On en parle particulièrement parce qu'elle est à Strasbourg.
Oui, d'accord. Écoutez, ça, voilà, me demander ça en fin d'émission...
En deux minutes.
Et oui, en plus, comment voulez-vous que je traite de manière lapidaire? Alors, c'est une question piège. Où va me traiter d'obscurantiste ou va me traiter de libéral? Donc, je vais vous dire. D'abord, je pense que sans vouloir jouer à monsieur qui sait tout, dès que je suis arrivé à la place des Vosges, je me suis battu. Mon combat, c'était quoi? C'était pas nécessairement que les femmes fassent comme les hommes à la synagogue, même si l'emplacement des femmes à la synagogue est un sujet vaste et qu'il faut traiter. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, c'était la connaissance, parce que le pouvoir, c'est la connaissance. Et donc, je me suis battu pour que la bat mitzvah ne soit pas juste. Moi, je dis aux filles, c'est pas The Voice ou Star Academy. L'idée, c'est pas juste de faire une prestation vocale. C'était que le rabbin que je suis s'assoit avec chacune des filles pour étudier autant qu'avec les garçons. Il n'y a pas de raison à ce que les garçons et les filles partagent le Talmud Torah et qu'au moment où on vient, parce qu'en fait, c'est quoi la bar mitzvah, la bat mitzvah? C'est d'abord le couronnement des études. Donc l'idée, c'était quoi? C'était de faire une véritable étude. Et je vais vous dire, si je pouvais abolir la lecture de la Torah pour les garçons, je le ferais. Pourquoi? Parce que de prendre autant de mois, de semaines à décrypter un texte pour le chanter alors qu'il n'est pas vocalisé, qu'il n'est pas le ponctué, et qu'on fait le sermon, je veux dire, du bar mitzvah à l'arrache dans les dernières semaines, pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit la fille ou le garçon qui puisse accéder au texte, qui puisse être autonome dans la lecture des textes. Et donc, personnellement, en plus de l'enseignement du Talmud Torah, j'accompagnais chacune des jeunes filles pour faire en sorte qu'elles puissent se sentir partie prenante et de la liturgie et de l'étude. Donc, et je continue cela même après la Bar et Bat Mitzvah, parce que j'ai un cours de post-Bar et Bat avec les adolescents. Maintenant, je n'ai pas répondu à votre question, je le sais. Donc, vous allez me dire que j'ai fait une belle acrobatie.
Il vous reste une minute, voilà, il me reste une minute. Monsieur le rabbin.
Voilà. Donc, après, je pense que pour connaître un grand nombre d'épouses de rabbins, même si elles ne sont pas obligées de le faire, elles font autant que des femmes rabbins. C'est-à-dire qu'elles donnent des cours, qu'elles enseignent. Alors certaines vont enseigner qu'à des femmes, mais d'autres vont enseigner aussi à des publics mixtes. Donc la grosse différence, ça sera quoi? Ça sera, être ministre du culte, entre guillemets. Oui. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Alors c'est peut-être là où je ne serais peut-être pas d'accord avec certains. Est-ce qu'on on doit nécessairement exercer une fonction rabbinique pour avoir un poste d'influence sur le destin d'une communauté? J'en suis pas convaincu. Alors après, on va dire c'est un peu facile. Alors laisse ta place à une... Bon. Je sais que, de toute façon, je m'inscris dans un jeûne traditionnaliste, donc je peux pas vous dire que je reconnais ce processus. Maintenant, c'est pas parce que je le reconnais pas que je ne dis pas que toutes ces femmes n'ont pas des connaissances et des choses à dire sur la Torah et le Talmud. Maintenant, de là à dire qu'on peut parler d'ordination rabbinique, alors après c'est un vaste débat et je ne voudrais pas froisser les uns ou les autres en l'espace de quelques secondes. Alors certains vont me dire que je ne suis pas courageux, mais bon, moi je pense qu'aujourd'hui l'enjeu, ce n'est pas tant de savoir si une femme peut être rabbin ou pas, c'est, je vous dis, le combat n'est pas gagné sur le reste. Avant de lancer ce combat en tant que tel, est-ce qu'il ne faudrait pas continuer de faire en sorte que dans nos communautés, il y ait encore plus de jeunes filles qui puissent accéder à l'enseignement tant pour le recevoir que pour le prodiguer. Moi, je n'ai pas de problème à avoir dans mon équipe autour de moi des personnages essentiels qui sont des femmes au sein du Talmud Torah, au sein du conseil d'administration de la synagogue. Alors oui, bon, c'est vrai, je ne vais pas chanter en duo avec une femme, en tout cas pas dans un cadre synagogal. C'est peut-être là la grosse différence. Mais est-ce que tout le reste ne nous ramène pas aussi à une vraie question? C'est, voilà, le pouvoir de l'étude, le partage des connaissances. Si déjà on pouvait gagner ce combat, qui n'est pas totalement gagné dans un grand nombre de communautés, je pense qu'on avancerait sur un sujet qui nous tient à cœur, qui n'est pas décliné de la même manière, j'en conviens. Mais encore une fois, je pense très sincèrement que le passage à la fonction rabbinique n'est pas en soi, incontournable. Mais je le dirais même pour des garçons. Je dis à certains garçons, que j'ai pu recevoir même comme candidat pour l'école rabbinique, vous avez toutes les potentialités pour partager le savoir rabbinique, mais vous n'êtes pas nécessairement obligé de devenir rabbin.
Monsieur le grand rabbin Olivier Kaufmann, donc je rappelle le grand rabbin de la synagogue la place des Vosges à Paris, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On n'a pas abordé la moitié des questions. Il va falloir que vous reveniez à Strasbourg.
Avec grand
plaisir.
Ce sera
toujours un grand plaisir.
C'est moi qui vous remercie pour
de
votre
accueil. Recevoir.
Merci.
L'invité de la rédaction.